VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité hors d'Afrique. Les immenses feux de forêt en Amazonie au Brésil, la plus grande forêt équatoriale du monde, considérée comme le poumon de notre planète, suscite beaucoup d'inquiétudes chez les écologistes et une énorme controverse au Brésil même. Le président brésilien Jair Bolsonaro s'en est violemment pris jeudi à la presse et a accusé les médias d'avoir déformé ses propos sur une possible responsabilité des ONG dans les feux qui embrasent l'Amazonie. Le point avec Michel Joseph.
À aucun moment, je n'ai accusé les ONG pour les feux en Amazonie, a lancé Jair Bolsonaro, ajoutant que la presse brésilienne passe son temps à inventer des histoires. Mercredi, il avait pourtant insinué que les ONG de défense de l'environnement pourraient avoir provoqué les incendies en Amazonie. Dans une tribune commune, 118 ONG se sont élevées contre ce qu'elles ont qualifié d'irresponsabilité présidentielle. Hier, le président d'extrême droite a redit que les plus forts soupçons s'orientent vers les ONG qui, selon lui, perdent de l'argent. La Norvège et l'Allemagne ont suspendu leurs subventions au fonds Amazonie. D'après l'Institut national de recherche spatiale, qui observe l'évolution de la forêt au Brésil, plus de 75 000 feux de forêt ont été enregistrés depuis le début de l'année, soit 84 % de plus que l'an dernier. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, se dit profondément préoccupé par la situation. Les feux d'Amazonie affectent le poumon de la planète, enflamment les réseaux sociaux.
Le sommet du G7 s'ouvre demain samedi à Biarritz, dans le sud de la France. De l'Iran au commerce, en passant par le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les 7 grandes puissances démocratiques et industrielles sont appelées à resserrer les lignes de fracture. L'économie mondiale, guettée par la récession sur fond de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, sera l'objet de toutes les attentions. La Russie, exclue de ce forum depuis l'annexion de la Crimée en 2014, pourrait aussi faire parler d'elle. Le président américain Donald Trump préconisant, à contre-courant de ses pairs, la réintégration de Moscou au sein du G7. Pendant 3 jours, les leaders du monde seront confinés dans un palace loin de la société civile dont ils se veulent à l'écoute. Plus de 13 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la région. Un grand rassemblement d'opposants au sommet fait craindre des violences. Afrique maintenant, au Burkina Faso, deuil national de 3 jours jusqu'au dimanche 25 août à minuit. Décision prise par le président Roch Marc Christian Kabore jeudi suite au décès de 24 soldats lors de l'attaque contre le détachement militaire de Koutougou lundi dans le Sahel burkinabé. Les militaires tués ont été enterrés hier à Dori, chef-lieu de la région. Remaniement ministériel en Gambie, le président Adama Barrow a nommé jeudi un ministre de la Défense pour la première fois en 22 ans. Un portefeuille attribué à Cheikh Omar Faye, consul général de Gambie à Jeddah en Arabie Saoudite. Un ancien chef de la police controversé est affecté au ministère de l'Intérieur. Depuis 1997, d'abord sous le président Yahya Jammeh qui a dirigé le pays d'une main de fer de 1994 à 2017, puis sous son successeur, l'ancien opposant Adama Barrow, les prérogatives du ministère de la Défense étaient directement exercées par le chef de l'État. Et toujours concernant l'Afrique de l'Ouest, les autorités américaines ont annoncé hier le démantèlement de vastes réseaux internationaux d'escrocs. Nigérians pour la plupart. Les intéressés sont accusés d'avoir dérobé des millions de dollars à des entreprises, des utilisateurs de sites de rencontres et des personnes âgées aussi. Le point avec Ekia Badou.
80 personnes sont inculpées dans cette affaire, dont 14 ont été arrêtées sur le territoire américain, principalement dans la région de Los Angeles, a précisé Nick Hanna, procureur fédéral pour la Californie. Les autres suspects sont encore en liberté, pour la plupart au Nigeria. Les inculpés et d'autres complices sont accusés d'avoir utilisé diverses formes d'escroquerie sur Internet, arnaque au président, manipulation sentimentale sur des sites de rencontres aux États-Unis et partout dans le monde. Certaines des victimes ont perdu des centaines de milliers de dollars et beaucoup étaient âgés, révèlent les services du procureur. De telles arnaques font perdre des milliards de dollars chaque année, a déclaré Paul Delacour, un responsable du FBI, la police fédérale à Los Angeles. Pour blanchir l'argent, le réseau avait recours à deux ressortissants nigérians résidant aux États-Unis, Valentin Hiro, 31 ans, et Chukwudi Gbokwe, 38 ans. Les deux hommes sont accusés d'avoir organisé le transfert d'au moins 6 millions de dollars sur des comptes hors des États-Unis.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique australe maintenant, politique en Afrique du Sud, le président sud-africain Cyril Ramaphosa promet de sévir contre quiconque se serait rendu coupable d'actes répréhensibles durant la collecte de fonds pour sa campagne en vue de la présidence de l'ANC, le Congrès national africain, au pouvoir. Une mise en garde lancée solennellement jeudi, Abdourahman Dia.
Concernant tout ce qui a été fait contre nos lois pendant la campagne, oui, je serai prêt et disposé à agir sans aucun doute, a déclaré hier au Parlement le président Cyril Ramaphosa. Un an après avoir conduit son parti à la victoire aux législatives de mai 2019, M. Ramaphosa est confronté à des interrogations sur le financement de sa campagne. Il est accusé d'avoir trompé le Parlement l'an dernier quand il a répondu à une question sur une donation de près de 32 000 euros faite par un groupe industriel. La médiatrice de la République lui a aussi ordonné de divulguer les coordonnées de tous ses donateurs. M. Ramaphosa s'est dit convaincu que sa campagne a été légitime, qu'il n'y a pas eu d'actes répréhensibles, pas de criminalité et pas d'abus de fonds ou de ressources publiques. Après une bataille serrée, il a succédé à Jacob Zuma à la tête de l'ANC en décembre 2017, puis à la présidence. Il a promis à maintes reprises d'éradiquer la corruption.
Actualité aux États-Unis pour terminer. Ce mois d'août marque le 400e anniversaire du débarquement des premiers esclaves africains en Virginie en 1619. Leur arrivée a marqué le début de ce qui allait devenir l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire du pays, l'esclavage et ses séquelles. Chris Simpkins, de La Voix de l'Amérique, nous fait découvrir l'histoire de ces premiers Africains des États-Unis et celle de leurs descendants. Récit Blanche Sanou.
Il y a 4 siècles, un navire anglais dénommé le White Lion a navigué dans ces eaux, transportant une cargaison humaine qu'il allait échanger contre de la nourriture et des marchandises.
Le navire est arrivé dans la baie de Chesapeake et a jeté l'ancre ici vers la fin du mois d'août 1619. Il avait à bord une vingtaine d'Africains asservis.
Fondateur du projet 1619, Calvin Pearson arpente les terres de Fort Monroe à Hampton en Virginie. C'est sur cette portion appelée Port Comfort à l'époque que les premiers esclaves africains ont foulé pour la première fois le sol américain.
Les premiers Africains débarqués ici étaient destinés à une vie de servitude. Ils devaient travailler dans les plantations, labourer les champs de maïs, les champs de tabac. C'était une vie qu'ils devaient endurer en sachant qu'ils ne seraient probablement jamais libres.
Cela me donne la chair de poule et un sentiment de tristesse.
Selon l'historien Bill Wiggin, les premiers Africains capturés n'avaient aucun statut légal jusqu'à ce que la colonie de Virginie légalise officiellement l'esclavage à vie en 1661.
Je ne peux pas imaginer l'arrivée dans cette baie de ces individus enchaînés dans un pays étranger et ne sachant rien de l'endroit où ils se trouvaient. On vous sort du navire, puis on vous dit que vous allez travailler ici, vous allez vivre ici.
Les premiers Africains ont été vendus à de riches blancs propriétaires de plantations à Hampton et Jamestown Settlement, qui est devenue la colonie de Virginie. Quelques jours après que le White Lion ait jeté l'ancre en Virginie, un autre navire, le Trésorier, arriva avec quelques esclaves, dont une nommée Angela.
Angela est curieusement la seule Africaine dont le nom soit écrit dans les registres de 1620 et qui est survécue. D'autres noms ont peut-être été mentionnés, mais les documents n'ont pas survécu.
L'esclavage a débuté en Virginie et c'est là que les premières actions visant à y mettre fin ont commencé. Pendant la guerre civile, 3 esclaves en fuite se sont réfugiés à Fort Monroe auprès des troupes de l'Union. Le major général Benjamin Butler déclara que les esclaves étaient des objets de contrebande ou des biens saisis. Cette décision a finalement protégé des milliers de personnes qui recherchaient la liberté et jeté les bases d'une mesure encore plus grande.
Ils ont forcé le gouvernement fédéral et le président Lincoln à publier la proclamation sur l'émancipation qui a conduit au 13e amendement, mettant fin à l'esclavage et ouvrant la voie au 14e amendement qui prévoyait la citoyenneté pour les Noirs en 1868.
Fort Monroe est maintenant un monument national.
Merci. Conflit en Afghanistan pour terminer. Les États-Unis et les talibans afghans ont repris jeudi leurs négociations à Doha au Qatar avec pour objectif d'aboutir à un accord historique mettant fin à la présence des soldats américains.